Merci d'écouter RFI. Il est midi ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
À la une de cette édition, après Mayotte, Emmanuel Macron est à Djibouti depuis hier. Il s'est entretenu ce midi avec son homologue au palais présidentiel, le chef de l'État français qui doit se rendre en Éthiopie ce samedi après-midi. La banlieue de Tel Aviv, visée cette nuit par un nouveau tir des Houthis, 16 personnes ont été légèrement blessées. Des tentatives d'interception ont été menées sans succès, reconnaît l'armée israélienne. À la une également, un sommet en Laponie pour parler immigration. Les dirigeants finlandais, suédois, italiens et grecs réunis pour 2 jours afin de discuter sécurité et protection des frontières. Et puis du sport et ce combat à 190 millions de dollars. Point contre point de la boxe, Tyson Fury retrouve Alexander Usyk 7 mois après la victoire de l'Ukrainien. Emmanuel Macron à Djibouti, le président français a partagé hier le repas de Noël avec les 1700 soldats français présents dans la plus importante base militaire en Afrique. Le chef de l'État a annoncé que cette base de Djibouti allait se réinventer comme un point de protection pour des missions en Afrique. Il s'est entretenu ce matin avec le président de Djibouti et Emmanuel Macron s'envolera cet après-midi pour Addis Abeba. Pierre Firsion.
C'est sous un chaud soleil que le président français a été accueilli ce matin par Ismaïl Omar Guelleh au palais présidentiel. Un accueil au son de la garde républicaine djiboutienne. Les deux hommes se sont ensuite entretenus pendant quelques minutes avant de s'exprimer devant la presse. Ismaïl Omar Guelleh.
Les entretiens que nous venons d'avoir ont porté sur toutes les facettes de nos relations bilatérales, notamment le renouvellement du traité de défense. Je me félicite de cette signature et réitère ici l'attachement profond de notre pays à la préservation et à la promotion de ce partenariat stratégique qui nous lie à la France.
Emmanuel Macron a lui salué ce partenariat avec Djibouti qui correspond, a-t-il dit, à des intérêts partagés. Les deux hommes ont également évoqué la situation régionale. Nous avons convergé sur l'importance de la mise en œuvre d'un processus de dialogue pour mettre un terme au terrible conflit au Soudan, a déclaré Emmanuel Macron, avant d'évoquer un autre sujet d'importance.
Nous sommes convaincus l'un et l'autre pour les pays de la Corne de l'Afrique de l'importance de dialoguer et de vivre dans le respect de l'intégrité territoriale. Et nous avons à cet égard salué le processus de dialogue qui a avancé de façon décisive entre l'Éthiopie et la Somalie.
J'aurai l'occasion de porter ce message d'apaisement à Addis Abeba dans quelques heures, a ajouté le président français, qui doit rencontrer Abiy Ahmed cet après-midi. Pierre Firsion, Djibouti, RFI.
Et c'est depuis Djibouti qu'Emmanuel Macron a assuré qu'il partageait la douleur de l'Allemagne. L'Allemagne où Olaf Scholz est lui arrivé à Magdebourg, le chancelier allemand qui se recueille dans la ville meurtrie hier soir par une attaque à la voiture Bélier. Une nouvelle fois dans le pays, c'est un marché de Noël qui a été visé. Une voiture a foncé à vive allure dans la foule. Le bilan provisoire fait état de 2 morts dont un enfant. Une 60aine de blessés sont aussi à déplorer. 15 d'entre eux sont toujours dans un état grave. L'assaillant a lui été arrêté, mais ses motivations restent floues. L'homme âgé d'une 50aine d'années est originaire d'Arabie Saoudite, médecin psychiatre. Il avait obtenu le statut de réfugié en 2016 en raison visiblement de son hostilité au régime saoudien. Pour l'heure, la piste du terrorisme islamiste n'est pas privilégiée. Israël frappé par un missile tiré par les Houthis. Pour la seconde fois en 48 heures, un missile yéménite a explosé dans la région de Tel Aviv. 16 personnes ont été légèrement blessées, dont une fillette de 3 ans. Des tentatives d'interception du missile ont pourtant été menées, mais sans succès, reconnaît l'armée israélienne. Les détails avec Michel Paul depuis Jérusalem.
Un cratère dans un parc de jeux pour enfants. Le missile s'est écrasé à Jaffa, au sud de Tel Aviv. En plein milieu de la nuit, les vitres des immeubles de tout le quartier ont volé en éclats et c'est ce qui a provoqué le nombre relativement important de blessés, tous légèrement atteints. L'armée israélienne reconnaît son échec dans l'interception de ce missile balistique tirée depuis le Yémen. Des vérifications sont en cours pour tenter de comprendre précisément pourquoi le missile n'a pas été intercepté, souligne un communiqué militaire. Jeudi dernier, un missile également en provenance du Yémen avait lui été partiellement intercepté par le système Arrow 3, mais son ogive explosive avait touché et détruit en partie une école de Ramat Gan, une banlieue de Tel Aviv, cela au moment même où l'aviation israélienne menait des raids contre plusieurs cibles identifiées avec le régime Houthi au Yémen. Ce matin, les Houthis revendiquent le tir d'un missile balistique hypersonique de type Palestine 2 sur une cible militaire israélienne. Pas de réaction israélienne à ce stade. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Par ailleurs, ce matin, le pape a lui condamné la cruauté de la frappe qui a tué hier 7 enfants à Gaza. Le Saint-Siège, qui soutient la solution dite de deux États, israélien et palestinien, et reconnaît depuis 2013 l'État palestinien avec lequel il entretient des relations diplomatiques. Washington abandonne son offre de récompense prévue pour l'arrestation d'Abu Mohammad al-Joulani. Le chef du groupe islamiste radical HTS a rencontrer des diplomates américains qui sont arrivés hier à Damas. Économie et le Sénat américain qui adopte un texte qui permet d'éviter la paralysie budgétaire. Il permet donc d'assurer le financement à l'État fédéral. L'hypothèse d'un shutdown avant Noël s'envole. Malgré les prises de position de Donald Trump et Elon Musk, le Sénat à majorité démocrate a donc approuvé le projet de loi de finances qui évite ainsi une fermeture partielle des principales agences fédérales. Je vous le disais en titre, un sommet en Laponie pour parler immigration. Dès aujourd'hui et pour 2 jours, le Premier ministre finlandais accueille 4 dirigeants de l'Union européenne pour discuter sécurité et protection des frontières. Le chef du gouvernement finlandais, grec, suédois et italien, ensemble donc, pour montrer que l'extrême nord et l'extrême sud de l'Europe peuvent partager une même vision restrictive de l'immigration. Carlota Morteo.
C'est dans une station de ski au fin fond de la Laponie que se tiendra un mini-sommet en toute confidentialité pour trouver, je cite, « des idées, de nouvelles initiatives ». C'est ainsi que le Premier ministre finlandais Petteri Orpo, à la tête d'une coalition incluant le parti d'extrême droite et qui veut réduire drastiquement l'immigration, a présenté ces réunions qui auront lieu non loin d'un poste frontalier où l'hiver dernier avaient afflué des centaines de migrants depuis la Russie. Une opération de déstabilisation orchestrée par les autorités russes, selon Helsinki, qui a donc fermé ses 1340 km de frontières et a commencé à ériger un mur de barbelés. La Finlande épouse la vision de l'Italie et de la Grèce, les portes d'entrée en Europe pour les réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient, deux pays également gouvernés par des formations nationalistes ou anti-immigration qui sont favorables notamment à la création de centres de renvoi à l'extérieur des frontières de l'UE sur le modèle de ce que teste l'Italie en Albanie. Une idée qui intéresse beaucoup les pays nordiques, la Suède, le Danemark et la Norvège également. La chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas sera de la partie, sachant que l'UE doit proposer début 2025 un plan pour faciliter les rapatriements d'immigrés sans papier.
Carlota Morteo du service international de RFI. Point contre point pour une revanche entre les deux meilleurs poids lourds de la planète. Un combat de boxe au sommet organisé ce samedi soir à Riyad en Arabie Saoudite. Tyson Fury retrouve Alexander Usyk 7 mois après la victoire de l'Ukrainien. Un combat à 190 millions de dollars. Et Cédric de Oliveira, c'est l'avenir de la catégorie Irène qui est en jeu.
December 21st, Usyk versus Fury 2. The rematch.
Depuis plusieurs semaines, une bande-annonce façon film d'horreur fait monter la pression avec les deux poids lourds complètement obsédés l'un par l'autre.
Ah, you're awake, Mr. Fury.
Fury voit son bourreau Usyk partout et inversement dans une mise en scène qui fait saliver. Malheureusement, la conférence de presse d'avant-combat, beaucoup moins. D'habitude si fantasque, le Britannique de 36 ans n'a fait que répéter les mêmes mots.
J'ai beaucoup parlé, plaisanté la première fois, comme durant toute ma carrière. Cette fois, je suis sérieux, je vais faire des dégâts, je vais mettre ce gars dans le coffre-fort.
En mai, le Gypsy King, invaincu jusque-là, avait subi la loi d'Alexander Usyk, plus petit de 15 cm, mais qui avait bien failli l'envoyer au tapis. Fury avait été sauvé par les cordes du ring, et l'Ukrainien, désormais champion incontesté, se voit bien encore prendre le dessus.
Don't be afraid, I will not leave you alone. See you on Saturday.
N'aie pas peur, je ne te laisserai pas tout seul sur le ring. Usyk n'a toujours pas l'air impressionné. Il s'est ensuite lancé dans le traditionnel face-à-face, 11 minutes, les yeux dans les yeux avec son adversaire. Dernière mise en bouche d'un combat qui s'annonce passionnant.
Un combat annoncé à partir de 23h, heure de Paris. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien à l'écoute de Radio France Internationale.